Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Daniel Tamizoni.
Bonjour à toutes et à tous, voici les titres de votre journal. Prestation de serment hier de trois juges de la Cour constitutionnelle dans une ambiance bon enfant. Le Premier ministre, les présidents de deux chambres du Parlement, tous membres du FCC étaient absents. Le Premier vice-président du Sénat et l'opposition parlementaire étaient aux côtés des députés Kach. Le commandant et le commandant adjoint de la 22e brigade des unités de réaction rapide ainsi qu'un agent de la police du groupe mobile d'intervention Gémi sont aux arrêts depuis hier. Ils sont arrêtés pour fuite devant l'ennemi lors de l'attaque mardi matin de la prison centrale de Kangwaï à Beni. C'est eux qui commandaient 35 militaires et 9 policiers commis à la garde de cette prison. Le coordonnateur national de l'organisation Foyer de développement pour l'autopromotion des pygmées et indigènes défavorisés est l'invité de ce journal de Radio Kapi ce matin. Vicar Hangi Batundi nous fait un état des lieux de la situation des enfants pygmées sur le plan scolaire au lendemain de la nouvelle rentrée des classes. Voilà pour les titres. Ils ont prêté serment d'investiture hier mercredi devant le président de la République, les trois juges constitutionnels nommés par l'ordonnance présidentielle du 17 juillet 2020. Le président leur en a donné acte. Cette cérémonie haute en couleur s'est déroulée dans une ambiance de fête en présence des députés et sénateurs de l'opposition et du CASH, ceux du FCC étant absents. C'était également en présence de plusieurs personnalités du monde diplomatique et politique, sans oublier de nombreux militants de l'UDPS. Jeff Ngoy pour le reportage.
Sous l'hymne de l'UDPS, ici entonné par les militants du dit parti, la salle des congrès est électrisée. L'assistance constituée à majorité des combattants du parti présidentiel demande la dissolution de l'Assemblée nationale. Après la cérémonie, quelques réactions des invités. Jacquemain Chabani, cadre de l'UDPS, parle d'une victoire de l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Je crois qu'il faut inscrire la cérémonie d'aujourd'hui comme une énième victoire dans ce sens de faire en sorte à ce qu'on ait réellement au Congo un pouvoir judiciaire indépendant.
Est-ce que l'absence des députés et sénateurs du FCC à cette cérémonie va impacter la suite des événements? Un autre invité, membre de la société civile, l'avocat Richard Bondo, répond.
L'absence de certains sénateurs et députés au bout des doigts de FCC n'a altéré en rien la cérémonie au simple motif que selon l'article 10 de la loi organique de la Cour constitutionnelle, c'est le président de la République qui prend acte de la prestation du serment.
Les trois juges constitutionnels assermentés, Dieudonné Kalouba, Alphonsine Kaloumé et Dieudonné Kaloumeta, jurent ainsi de respecter la Constitution, de garder le secret de leur délibéré et de n'entreprendre aucune activité qui mettrait en cause l'impartialité et l'indépendance de la Cour constitutionnel.
Je le disais, le Premier ministre ainsi que les présidents des deux chambres du Parlement, tous membres du FCC, étaient absents à la cérémonie. Par contre, on a noté parmi les personnalités présentes le premier vice-président du Sénat, Sami Badibanga, qui était dans l'hémicycle. La RDC a besoin d'une justice indépendante au-dessus de la mêlée, susceptible à faire grandir la nation congolaise. Affirmation de l'abbé Donatien Choulé hier mercredi après la prestation de serment de membres de la Cour constitutionnelle. Le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo rappelle qu'il y a quelque peu, les évêques ont déploré une justice qui faisait la honte du pays et pour lui, cette dynamique devrait garantir l'avènement d'un état de droit en RDC. Abbé Donatien Choulé, joint au téléphone par Michel Kifindangoï.
L'essentiel pour nous, c'est qu'ici, c'est-à-dire on reconnaît un bon arbre, ça se fouille. Les évêques ont, il y a quelque peu, déploré une justice qui faisait la honte du pays. Nous souhaitons que les efforts commencés, parce qu'il faut reconnaître que le procès de 100 jours et les enquêtes en cours ont suscité un espoir. On voudrait que cette dynamique évolue dans le bon. Donc la préoccupation pour la CENCO, c'est une justice qui fasse réellement grandir la nation congolaise. C'est l'essentiel pour nous. La CENCO n'est pas dans le débat des juristes gauche à droite. Nous voulons une justice digne de ce nom pour notre pays. Il ne faut pas déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Nous voulons vraiment une justice indépendante au-dessus de la mêlée.
Et nous allons dans la province du Nord-Kivu, arrestation hier mercredi de deux officiers FRDC et d'un agent de la police nationale dans le cadre des enquêtes préliminaires sur l'attaque il y a deux jours de la prison centrale de Kangwayi à Beni. Cette attaque avait occasionné l'évasion de plus d'un millier de détenus. Ces officiers poursuivis pour fuite devant l'ennemi pour n'avoir pas protégé cette maison carcérale sont détenus au cachot de l'auditorat militaire supérieur près la cour militaire opérationnelle du Nord-Kivu à Beni. Martial Papimukeba.
Ces officiers FRDC arrêtés sont les commandants et les commandants adjoints de la 3e compagnie du 3e bataillon de la 22e brigade des unités de réaction rapide ainsi qu'un agent de police du groupe mobile d'intervention GEMI. Ce sont eux qui commandaient au moins 35 militaires et 9 policiers commis à la garde de la prison centrale de Kangwayi au moment des faits. Selon des sources judiciaires, ils sont poursuivis par l'auditorat militaire supérieur près la cour militaire opérationnelle du Nord Kivu basé à Beni pour fuite devant l'ennemi. D'après la même source, lors de cette attaque attribuée aux ADF, les militaires et policiers sous commandement de ces officiers n'avaient pas réagi ou riposté devant l'ennemi, ce qui a permis aux assaillants d'opérer avec facilité pendant environ une demi-heure et libérer plus d'un millier de détenus. La justice militaire cherche ainsi à comprendre le pourquoi de cette attitude de ces hommes en uniforme. Selon des sources sécuritaires, au moins 236 combattants ADF ainsi qu'environ 200 combattants Maïmaï se sont évadés au cours de cette attaque de la prison centrale de Kangwayi. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Nous allons travailler pour renforcer la sécurisation de la prison de Beni. C'est la déclaration du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC en charge des opérations et de la protection. David Grisley a fait cette promesse à la sortie de sa rencontre avec le maire adjoint de la ville de Beni, Modeste Bakwanamaha. Il parle également de l'appui de la force de la MONUSCO aux forces de l'ordre pour retrouver les évadés. David Grisley est au micro de Marc Marofimbo.
On était très bien impliqués. On était contactés par les services de sécurité tout après. On a déjà déployé des forces de réponse rapide. Aussi, on a utilisé nos drones pour aider dans la recherche de ces personnes. On va continuer de donner un appui jusqu'à tous les échappés sont retrouvés. On était en train de discuter aussi qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour protéger la population parce qu'on sait que beaucoup de criminels ont été libérés. Donc on va travailler avec la police ici pour cet aspect. Moi-même, j'espère de voir la prison moi-même, de voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour renforcer la prison pour éviter ce problème dans l'avenir. Donc on va travailler dans les médias pour les échapper, mais on va continuer de donner appui pour le problème de criminalité, mais aussi de voir comment on peut éviter ce problème à l'avenir.
David Grisley est arrivé hier mercredi à Beni, accompagné d'une délégation de la représentation de la France et de la Grande-Bretagne dans l'est de la RDC, ainsi que du commandant de la force de la MONUSCO. Aujourd'hui, jeudi, la délégation devra se rendre dans le secteur de Rwenzori pour échanger avec les acteurs locaux sur la problématique de la protection des civils. Au Kasaï central à présent, un détenu âgé d'une cinquantaine d'années est décédé mardi dans un cachot à Chimbulu par manque de nourriture. L'infortuné était arrêté pour viol sur mineur le 2 octobre courant. Cette information livrée à Radio Kapi par le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise du coin est confirmée par d'autres sources locales. Augustin Mukenke Chabantou renseigne que l'endroit où sont gardés les détenus est une maison d'habitation privée où les personnes arrêtées sont entassées dans une chambre sans nourriture ni médicaments. Augustin Mukenke l'a dit à François Kadima.
La nouvelle société civile, coordination de Dibaya et de la ville de Chim, présente ses inquiétudes quant aux conditions de détention des détenus dans les territoires de Dibaya. Voilà où je venons de enregistrer le cas d'un détenu mort cachot pensé Chim hier à 1h du matin. Mort, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la nourriture, il est mort de faim. Cette situation doit interpeller les autorités locales, nationales et provinciales. Dans ces cachots, c'est presque une porcherie. Il y a les gens qui sont entassés là-bas. Ce n'est pas même une prison, c'est une maison d'un particulier. Les chefs de l'État, les autorités à tous les niveaux, doivent prendre leurs responsabilités. Les territoires de Dibaya, la ville de Chimbulu sont aussi des entités comme les entités d'ailleurs.
Retournons dans le Nord Kivu pour parler de la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Goma. Une dizaine de personnes, toutes des femmes, enlevées dans la nuit de mardi à hier mercredi par des hommes armés dans le quartier Ntosho, commune de Karisimbi, à l'ouest de la ville. La chef du dit quartier parle d'un nouveau mode opératoire ciblé. Le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, qui déplore cette montée de l'insécurité et le banditisme urbain, demande aux services spécialisés de travailler en collaboration avec la population pour dénicher les malfaiteurs et les déférer devant la justice. Denise Lukiso.
La première victime, propriétaire d'une boutique, s'est retrouvée ligotée par ses présumés bandits en tenue militaire et lourdement armée. C'était vers 18h locales, d'après la chef des quartiers Keshiro. Avec leur victime, les ravisseurs ont poursuivi leur opération sur d'autres avenues du même quartier. Au total, 8 femmes ont été enlevées et conduites vers les parcs, affirme Madame Elisabeth Ayoubusa, qui souligne ne pas comprendre cet acharnement ciblé sur des femmes. Elle ajoute que les assaillants se sont mis à tirer plusieurs coups de balle pendant environ une trentaine de minutes avant de s'enfuir, ce qui a créé une psychose parmi les habitants. Alertés, la police et quelques militaires FARDC sont intervenus. Madame Ayoubusa déclare que sans l'intervention de la police, le pire serait arrivé. Il y a 2 jours, le président de l'Assemblée a interpellé les services de sécurité pour doubler d'efforts pour dénicher les auteurs de cette insécurité. Robert Seninga.
En tant que représentant du peuple, nous sommes tellement touchés par ces actes ignobles perpétrés par les hors-la-loi qui sèment la terreur, qui tuent, qui violent les paisibles citoyens. Nous interpellons tous les services de sécurité pour doubler les efforts, d'être vigilants, d'être à côté de la population pour mieux cerner ces problèmes.
Goma, Denise Louquet sur Radio Capi.
Cela fait un mois depuis que les finalistes du secondaire ont présenté les épreuves de l'examen d'État édition 2019-2020. Seuls les résultats partiels de 3 provinces ont été publiés au mois de septembre et puis c'est le silence plat. Cette situation inquiète les parents d'élèves finalistes et les finalistes eux-mêmes qui s'impatientent pour l'instant du côté du gouvernement depuis que le ministre de l'EPST avait affirmé que la correction des épreuves continuait et que cela ne devrait pas se faire dans la précipitation. On ne dit plus rien. Dans l'entretemps, bien que perturbé par la grève des enseignants, la rentrée des classes a quand même eu lieu. Adolphine Ngoï s'est penchée sur la question.
Les premiers résultats ont été publiés le 27 septembre dernier pour les filières non techniques de la ville province de Kinshasa. 4 jours plus tard, avait eu lieu la publication des résultats des finalistes de la province du Congo central et du Haut-Katanga. Bientôt, ça va faire un mois de silence. L'inquiétude est palpable du côté des concernés. C'est le cas de cette finaliste.
On n'a pas encore publié, nous ne savons pas si on a réussi, si on n'a pas réussi. C'est aussi un problème. Quand on a réussi, on prépare les dossiers, on va à l'université. Quand on n'a pas réussi, on prépare les dossiers pour aller à l'école. Et nos parents se sont paniqués parce que ça trouble aussi les problèmes de l'argent. Car des autres, des gens commencent les cours. Mais nous, nous sommes toujours là pour attendre les résultats. On nous demande aussi au chef de l'État de publier les résultats. Il regarde notre cas parce que nous ne savons pas quoi faire.
Pour les parents d'élèves finalistes, le retard enregistré dans la publication du reste des résultats de l'examen, surtout les silences du gouvernement, passe mal.
Au fait, la situation actuelle nous met dans une position inconfortable. Nous demandons au gouvernement de nous aider par la publication de ces résultats pour qu'en tant que parents, nous sachions comment orienter nos enfants pour la suite.
Espérons que le gouvernement sera sensible à ces cris de détresse en procédant rapidement à la publication du reste des résultats de l'examen.
Retournons dans le Nord Kivu. L'ONG Foyer pour le développement et l'autopromotion des pygmées indigènes défavorisés se félicite de l'effectivité de la rentrée scolaire le 12 octobre dernier. Le responsable de cette organisation qui lutte pour le respect des droits des peuples pygmées parle de l'amélioration significative des effectifs des enfants pygmées pour cette nouvelle année de formation. Mais bien que cet effectif soit en hausse, le coordonnateur national de cette organisation dit qu'il y a encore des défis à relever afin de l'améliorer encore davantage. Vicar Hangi Batundi est joint au téléphone par Marc Marofimbo.
S'il faut parler du défi lié à la famine, à ce niveau-là, il faut un programme d'accompagnement des parents dans les activités agropastorales. Comme ça, les parents développent des moyens de subsistance pour subvenir aux besoins alimentaires des enfants. Deuxièmement, il y a le problème lié aujourd'hui, c'est que les enseignants sont en train de gréver parce qu'ils réclament leurs droits, quelque garantie par notre loi fondamentale. Pour relever ce défi, nous invitons les enseignants. Lorsqu'ils sont en train de revendiquer, en même temps, ils doivent réfléchir comment sauver l'année. Parce que les enfants sont des innocents, et donc il n'y a que le gouvernement qui doit s'assumer pour répondre à leurs obligations. Mais il y a également le problème lié à quelques cas isolés de discrimination des enfants qui viennent à l'école. Donc il y a beaucoup de facteurs que nous devons pour permettre aux enfants d'étudier dans de meilleures conditions, mais aussi pour les enfants vulnérables.
Actualité internationale.
Inquiétante montée de tensions préélectorales en Côte d'Ivoire à l'approche de la présidentielle, la ville de Dabou à l'ouest d'Abidjan a connu ces deux derniers jours l'un des épisodes les plus meurtriers depuis le début de la contestation contre la candidature d'Alassane Ouattara à un troisième mandat. Les violences de Dabou ont fait au moins 7 morts et des dizaines de blessés.
L'invité.
Place à présent à l'invité de ce journal matin sur Radio Capi, c'est le coordonnateur national de l'organisation Foyer de développement pour l'autopromotion des pygmées et indigènes défavorisés. Vicar Hangi nous fait un état des lieux de la situation des enfants pygmées sur le plan scolaire pendant que vient de s'ouvrir une nouvelle année scolaire. Vicar Hangi est interrogé par Marc Marofimbo.
Monsieur Vicar Hangi Batundi, bonjour.
Bonjour, monsieur Marc Marofimbo.
Vous êtes le coordonnateur national de l'organisation FDAPID, une organisation qui lutte pour les droits des pygmées. On peut savoir comment FDAPID, vous évaluez la rentrée scolaire chez les enfants pygmées sur le territoire national?
Oui, en fait, l'accès à l'éducation pour les enfants autochtones pygmées demeure un grand défi au niveau du pays et au niveau de la province du Nord-Kivu en particulier. Avec l'année scolaire 2019-2020 a été affectée par la crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus, nous sommes en train de constater amèrement que cette année en cours, c'est-à-dire l'année scolaire 2020-2021, risque aussi d'être affectée de nouveau, surtout parce que vous constatez déjà des grèves des enseignants, surtout dans les écoles publiques. Tel que vous le savez, comme les parents des enfants pygmées n'ont pas de moyens pour scolariser les enfants dans des écoles privées, tous les enfants ont été inscrits dans les écoles publiques. Alors, jusque-là, ils n'ont pas encore commencé les cours. Et donc, à ce niveau-là, nous sommes en train de craindre que l'année soit en péril parce que cette grève risque de produire les mêmes effets que la COVID-19 pour l'année passée. Deuxièmement, il y a des défis liés au moyen de subsistance pour les parents autochtones pygmées qui ne sont pas en mesure de préparer leurs enfants pour qu'ils étudient dans les mêmes conditions que les autres parents. Et il y a un autre problème majeur, c'est le fait que ceux qui ont déjà terminé les études n'accèdent pas à l'emploi. Donc voilà autant de problèmes auxquels le système éducatif fait face. Pour ce qui concerne spécialement le peuple autochtone pygmée.
Monsieur Vicar, comparativement à l'année passée, quel est l'état des lieux de leur effectif pour cette année?
Non, vous savez que depuis un temps, depuis 2016, que FDAPID mène une campagne de sensibilisation sur l'importance de l'école, l'importance de l'éducation. Nous sommes en train d'observer un taux élevé d'inscription des enfants dans les écoles. Et pour cette année, seulement pour le cas de la province du Nord-Kivu, il y a plus de 1000 enfants qui sont inscrits dans différentes écoles. Il faut noter qu'en tout cas, il y a des avancées. Donc, les parents ont déjà compris l'importance de l'école, malgré quelques défis qu'il faut relever.
Alors, M. Vicar, vous avez relevé certains défis auxquels les élèves, les enfants pygmées font face pour leur scolarisation.
Oui, s'il faut parler du défi lié à la famine, lorsque les enfants vont à l'école sans manger, et donc, à ce niveau-là, il faut un programme d'accompagnement des parents dans les activités agropastorales. Comme ça, les parents développent des moyens de subsistance pour subvenir aux besoins alimentaires des enfants. Deuxièmement, il y a le problème lié aujourd'hui au fait que les enseignants se sont en train de gréver parce que ils réclament leurs droits, quelques garanties par notre loi fondamentale. Pour relever ce défi, je pense que nous invitons les enseignants. Lorsqu'ils sont en train de revendiquer, en même temps, ils doivent réfléchir comment sauver l'année. Parce que les enfants sont des innocents, et donc il n'y a que le gouvernement qui doit s'assumer pour répondre à leurs obligations, pour prendre en charge les enseignants, surtout les jeunes et les jeunes qui réclament que jusque-là, ils ne sont pas payés. Mais il y a également le problème lié à quelques cas isolés de discrimination des enfants qui viennent à l'école. Il ne faut pas chasser les enfants chaque jour. Même si c'est basé sur les écoles privées, par exemple, l'enfant n'a aucun engagement avec l'école. C'est plutôt les parents qui ont des engagements avec l'école. Donc, il y a beaucoup de facteurs que nous devons pour permettre aux enfants d'étudier dans de meilleures conditions, mais aussi pour les enfants vulnérables.
Monsieur Vicaire Batoune, je rappelle que vous êtes le coordonnateur national de l'organisation FDAPID. Nous vous disons merci.
Merci beaucoup, monsieur Maxime.
Et c'est la fin de cette édition du journal sur Radio Okapi. Retrouvez-la sur www.radiokapi.net.